France Musique.
C'est un astrophysicien de renommée internationale. Il a fait comprendre à beaucoup de ses lecteurs les trous noirs sur lesquels il a tant travaillé. Mais Jean-Pierre Luminet, également poète et romancier, est avant tout ou aussi un fou de musique, musicien, dans son autobiographie musicale du piano aux étoiles qui paraît aujourd'hui même chez Le Passeur. Il raconte sa vie à travers cette passion, l'enfance, les rencontres avec des interprètes, des compositeurs avec lesquels il a collaboré. Et puis il livre aussi ses souvenirs de concert. Il établit la liste des disques de chevet. Mais surtout, il file une métaphore, un lien entre science et musique. Bonjour Jean-Pierre Luminet.
Bonjour.
Bienvenue sur France Musique.
Merci.
D'ailleurs, dans votre livre, à un moment donné, vous racontez qu'enfant, vous écoutiez France Musique tous les matins, et ensuite, en tout cas, quand vous étiez à Marseille étudiant, ça a été une source.
J'étais pensionnaire au lycée Thiers, et j'écoutais le matin, dès mon lever, j'avais une petite radio, et j'écoutais évidemment déjà France Musique.
Du piano aux étoiles, une autobiographie musicale. Quand on referme ce livre, on se pose quand même une question. Est-ce qu'il y a un regret de ne pas avoir fait de la musique toute votre vie?
Bonne question que je me suis parfois posée. Ce qu'il y a, c'est que non, c'est vrai que la musique, c'est vraiment une passion totale que j'ai eue tout au long de ma vie. Mais je dois quand même dire que la recherche scientifique, mon métier d'astrophysicien, m'a apporté également tellement de satisfaction que je ne regrette pas. Même si il m'est arrivé de penser que j'aurais rêvé de devenir, par exemple, chef d'orchestre quand j'étais gosse, que j'ai découvert la musique classique, pas si jeune que cela d'ailleurs, comme je le raconte, seulement à l'âge de 12, 13, 14 ans, j'ai commencé simplement à avoir accès à ce qu'on appelle la musique classique, la musique savante. Auparavant, j'écoutais autre chose, la musique de mon temps, la musique de variété. Et donc, voilà, je passais des heures à écouter mes disques sur les vieux pick-up en dirigeant un orchestre imaginaire. Et donc, je me disais, ce serait extraordinaire d'être chef d'orchestre. Mais voilà, donc les conditions dans lesquelles je vivais ne me permettaient pas d'aller au conservatoire d'Avignon ou ce genre de choses. Donc, voilà. Pareil pour le piano, que j'ai commencé relativement tardivement, ce qui m'a malheureusement empêché, surtout que je suis pas très travailleur pour les gammes et autres, de devenir un pianiste avec une technique suffisante pour jouer ce que j'arriverais de jouer, hein, les sonates en si mineur de Liszt ou les folies de Rachmaninoff. Mais donc je suis resté pianiste amateur, mais avec toujours cette passion à la fois de mélomane, la pratique pianistique que j'ai quand même poursuivie, et puis surtout donc à partir de la fin des années 80, au moment où j'ai commencé à publier mes premiers articles de vulgarisation, mon livre sur les trous noirs, ben ces contacts que j'ai eus et ces demandes que j'ai eues de la part de compositeurs de musique contemporaine, dont on sera amené pour le moment.
Gérard Griset, voilà. Dont on va reparler tout à l'heure. Dans ce livre, Jean-Pierre Luminet, le piano, la musique classique, vous préférez dire savante d'ailleurs, la musique contemporaine occupe la plus grande place, mais vous racontez aussi votre amour du jazz, avec même des précisions théoriques d'harmonie, et l'un de vos jazzmen préférés, c'est lui.
Thank you.
Smoke Gets in Your Eyes, Thelonious Monk, que vous citez, Jean-Pierre Luminet, dans votre autobiographie musicale. C'est le sous-titre de ce livre, Du piano aux étoiles. Il paraît aujourd'hui chez Le Passeur. Pourquoi Monk?
Je trouve que c'est le créateur dans la musique de jazz le plus original de l'histoire de cette musique, qui a beaucoup évolué, pas toujours dans le bon sens, ça, à mon avis, mais dans ces dernières années en tout cas. Et en fait, j'étais tellement étonné par l'originalité et ces accords qui me semblaient bizarres que j'ai écouté nombre de ses interprétations au piano solo et je les ai retranscrites, parce que j'ai une assez bonne oreille, disons, je les ai retranscrites pour en écrire une partition. Et j'ai eu finalement la surprise de m'apercevoir qu'il y avait une extraordinaire économie de moyens, c'est-à-dire des accords qui me paraissaient complexe, finalement, était fait avec simplement 2, 3, 4 notes. Et finalement, cette économie de moyens, incroyablement efficace, m'a fait penser à, par exemple, l'économie de moyens que l'on trouve dans certaines pièces de Maurice Ravel. Donc, vraiment, une immense découverte.
Et vous l'avez donné en concert, parce que vous avez donné plusieurs concerts dans votre vie.
Modestement,
aussi.
Oui, j'ai donné. Je me suis lancé dans quelques récitals, pas devant de très grandes salles, bien sûr.
Jean-Pierre Luminet, quand on est un grand astrophysicien, quand on écrit son autobiographie, on s'attend à un récit. Là, c'est une autobiographie musicale. Comment cette idée étonnante vous est venue de vous raconter à travers la musique? C'est en quelque sorte ça. Vous parlez d'ailleurs de votre lien avec la musique comme votre cosmos intérieur.
Le cosmos intérieur, oui. Je cite souvent une belle phrase de Gaston Bachelard qui parlait du double infini, du cosmos et de l'âme humaine. Voilà, donc il y a cette résonance incroyable. Et alors j'ai un chapitre dans le livre, parmi les nombreux chapitres qui abordent des aspects divers, il y a un chapitre qui est consacré à la musique des sphères, c'est-à-dire cette vieille idée issue de l'Antiquité qu'il puisse y avoir un rapport direct entre l'organisation des sons, les échelles musicales et puis l'organisation du cosmos, cette idée qui s'est perpétuée assez longtemps, jusqu'à l'époque, jusqu'au XVIIe siècle, hein, Kepler étant un petit peu le couronnement de toute cette idée quelque peu fantasmatique, hein, que les astres puissent émettre des sons harmonieux. Et puis après, je parle de la nouvelle musique des sphères, c'est-à-dire une fois que les sciences de l'univers au XXe siècle, grâce à la fois au progrès extraordinaire des instruments en astronomie, et puis des théories et des explications et des modélisations, nous ont fait découvrir un univers qui n'est pas du tout harmonieux, un univers cataclysmique essentiellement, des étoiles qui explosent, des trous noirs qui se forment, des collisions de galaxies, ce genre de choses, eh bien, ça a quand même suscité un intérêt chez les artistes, tout art confondu d'ailleurs, mais bon, là on parle de musique essentiellement, pour essayer de pour que ceux qui s'intéressent justement à ces développements de nos connaissances nouvelles sur l'univers, d'essayer de transposer d'une manière tout à fait différente de ce qu'on avait pu être fait dans le passé, cette idée d'une musique des sphères qui n'est plus du tout harmonieuse, et on arrive dans la musique contemporaine.
Vous évoquez énormément de rencontres, il y a bien sûr vos amis de jeunesse, et puis il y a des tas de noms, Arthur Petronio, Hector Parra, Carole Beffa, Dutilleux et Geneviève Joie, avec lequel vous partagez un martini amuse-gueule, et oui. Puis il y a Gérard Griset, oui. Là c'est lui qui vient vers vous, fasciné par les pulsars, vous pouvez nous rappeler d'ailleurs ce que c'est?
Oui, les pulsars sont des étoiles mortes. Enfin, ce sont des cœurs d'étoiles massives qui se sont effondrés à la suite d'une grande explosion qu'on appelle les explosions de supernovae. Et ce sont des sortes de toupies, des corps extraordinairement denses qu'on appelle des étoiles à neutrons, qui tournent sur elles-mêmes à une vitesse folle, en émettant un faisceau de rayonnement radio qui balaye l'espace comme un phare. Donc, ce sont des phares dans le ciel. Un phare, c'est quelque chose de régulier. Donc, ça émet un signal. Ce n'est pas un signal sonore, évidemment, il n'y a pas d'onde acoustique qui se propage dans l'espace, c'est un signal électromagnétique, mais lorsque ce signal passe devant la fenêtre d'un radiotélescope, eh bien, on détecte un signal radio qui est converti en signal électrique, on peut l'amplifier, le filtrer pour améliorer le rapport signal sur bruit, on branche un haut-parleur et on entend cette fois-ci quelque chose qui est le rythme de rotation de l'étoile à neutrons, c'est-à-dire ces pulsars. Et c'est fascinant, et c'est ces rythmes-là que les astronomes s'étaient un petit peu amusés à mettre sur cassette, pas pour faire de la science, hein, qui a fasciné Gérard Griset lorsqu'il était professeur de composition à l'université de Berkeley. C'était à la toute fin des années 80 et c'est l'époque où moi j'avais commencé mes recherches une dizaine d'années auparavant, mais je commençais vraiment à écrire des articles de vulgarisation et je venais de publier mon premier livre sur les trous noirs en 1987. Et à partir de là, j'ai commencé à être sollicité justement par ces artistes à l'écoute de ce qui se passait dans le monde des sciences. Et Gérard Griset donc m'avait écrit une lettre sans savoir du tout que je le connaissais, que j'avais que déjà dans ma discothèque, j'avais déjà un disque vinyle de ces œuvres-là. Et donc j'ai été évidemment enchanté de démarrer une collaboration qui a abouti donc à ce Noir de l'étoile, une œuvre donc pour six percussionnistes humains et deux guest stars qui sont des pulsars enregistrés pour le concert.
Et voici les six percussionnistes et les guest stars. Le Noir de l'étoile de Gérard Griset avec la collaboration de Jean-Pierre Luminet, les percussions de Strasbourg. C'est un disque d'ailleurs qui a remporté le Grand Prix de l'Académie Charles Cros. Est-ce que à ce moment-là, Jean-Pierre Luminet, on peut dire que vos deux vies se sont rejointes, la vie de l'astrophysicien et le mélomane?
Oui, davantage. C'est-à-dire que, bon, en dehors de la musique, j'ai également pratiqué beaucoup d'autres activités, l'écriture poétique, plus tard le roman, les arts plastiques, et pendant assez longtemps, en fait, je séparais les choses. Une sorte de schizophrénie, je voulais pas trop mêler, je voulais pas faire d'amalgame. Et puis, bon, à mesure que les choses ont avancé, et notamment, justement, avec ces collaborations musicales, les liens se sont tissés davantage, avec toujours ce double rapport dont parlait Bachelard entre le double infini du cosmos et de l'âme humaine. Et il y a des résonances extraordinaires. Et je dois dire que ces activités artistiques que j'ai, notamment musicales, m'aident d'une certaine façon, mais de façon souterraine, dans mes propres recherches scientifiques, dans les questions que je me pose et dans les énigmes que je tente de résoudre par des équations mathématiques. Parce qu'au départ, il y a l'imagination, il y a une sorte de rêve intérieur également. Et on se projette finalement, on projette ce que nous avons en nous vers le cosmos pour essayer de mieux le comprendre.
Vous l'écrivez d'ailleurs, il est clair que pour l'astrophysicien que je suis, la musique et ses différentes composantes font partie intégrante de mon travail de chercheur. Et plus loin, vous dites, certains de mes collègues travaillaient sur l'hypothétique théorie des cordes. Pour ma part, j'ai entre autres passé beaucoup de temps à décoder les harmoniques du rayonnement fossile afin de comprendre la forme du plus vaste des instruments de musique. L'univers tout entier. L'univers est donc un instrument de musique, Jean-Pierre Luminet.
Oui, en tout cas, le jeune univers, pendant ces à peu près 400 000 premières années d'âge, après le supposé Big Bang qui marquerait son début, a sonné comme un instrument de musique. À l'époque, il n'avait pas encore constitué d'étoiles de galaxies. C'était une sorte de plasma, c'est-à-dire un gaz extrêmement chaud, de particules de rayonnement, agité de fluctuations, des sortes de grumeaux dans le plasma. Et ces grumeaux se sont organisés de la même façon que du sable réparti sur un tambour, par exemple. Si vous faites vibrer le tambour, le sable va s'organiser en structure. Et nous avons des méthodes mathématiques très sophistiquées qui permettent d'analyser les modes vibratoires à partir d'une carte que l'on a depuis quelques années de ce qu'on appelle le rayonnement fossile, c'est-à-dire la première lumière, l'image que l'on a de ce très très jeune univers que l'on reçoit aujourd'hui avec un décalage extraordinaire, mais on a des images très précises. En analysant la répartition de ces grumeaux, nous en déduisons les modes vibratoires fondamentaux du jeune univers, comme on décoderait les propriétés d'un instrument de musique, et cela m'a beaucoup aidé, notamment pour proposer en 2003 un modèle d'univers qui avait fait la une des revues de l'époque, et avec une analyse adaptée, en fait, qu'on appelle une analyse harmonique, qui est adaptée de techniques qu'on utilise en musique, mais qui sont évidemment un peu plus sophistiquées, disons, pour la physique.
Ce qui est étonnant, parce qu'une autobiographie, c'est le récit d'une vie, avec également toutes ces rencontres, et puis on va évoquer aussi vos souvenirs de concerts, vos disques fétiches. Mais ce qui est étonnant, si on file cette métaphore ou cette comparaison entre science et musique, c'est que autant dans les sciences, vous avez fait énormément d'études, autant en musique, à part quelques professeurs au début, l'écoute de France Musique et ces rencontres, vous êtes un vrai autodidacte.
Autodidacte, oui, je suis essentiellement autodidacte, oui. C'est une belle chose d'être autodidacte. Bon, après, évidemment, l'inconvénient, c'est que là, cela, effectivement, m'a empêché d'acquérir des éléments vraiment fondamentaux. Parce que, bon, j'ai eu quelques velléités de composition également quand j'étais gosse, mais je n'avais extrêmement peu, aucune technique particulière. Même si j'ai passé donc une année passionnante avec ce personnage extraordinaire et oublié aujourd'hui qui s'appelait Arthur Petronio, un créateur
qui a joué vos pièces
incroyables, hein. Qui a joué une fois en concert, il était violoniste et il avait joué de petites pièces pour violon et piano. Mais ce qu'il faut retenir d'Arthur Petronio, c'était que c'était un créateur d'avant-garde, puisque dès les années 1920, il avait conçu ce qu'il appelait la verbophonie, qui était la mise en musique, en fait, de borborygme, de mots, de bruit de la nature. C'était donc 30 ans ou 40 ans avant ce que l'on faisait dans les studios de musique, ce que l'on fera plus tard dans les studios dits de musique concrète. Et donc un créateur tout à fait étonnant qui m'a réellement inspiré.
Il y a vos disques, les disques de votre vie, car vous avez aussi beaucoup appris par le disque
beaucoup,
en collectionnant.
Oui,
et peut-être que l'un des premiers, c'est celui-ci.
Thank you.
La fin du Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky, la danse sacrale avec Igor Markevitch à la tête du Philharmonia Orchestra. C'est l'un de vos disques de chevet, c'est dans votre livre Jean-Pierre Luminet du piano aux étoiles, et c'est, vous l'expliquez plus tôt, votre premier choc musical.
Ah oui, j'avais été cloué de stupeur en écoutant cela. Oui, comme je le raconte, en fait, j'ai découvert la musique classique relativement tard, à l'âge de 12 ou 13 ans. Je n'en avais jamais écouté auparavant, et c'était mon instituteur, je devais être en sixième, je crois, qui un soir m'a tendu quelques vinyles pour que j'écoute sur mon pick-up qu'il venait de m'être offert. Et il a commencé ce moment à me donner les grands classiques, hein, les quatre saisons, la petite musique de nuit de Mozart, la cinquième de Beethoven. Et la Rhapsodie en croix de Liszt, ça m'a fasciné. Et lorsque, une semaine plus tard, je suis revenu en lui disant que ça m'intéressait, il m'a dit, ben, je te donne deux disques un peu plus avancés. Il y avait la Symphonie Fantastique de Berlioz et le Sacre du Printemps. Les deux m'ont étonné, mais surtout le Sacre. Je suis resté cloué de stupeur. Et ça a été finalement mon introduction à une musique plus contemporaine, même si aujourd'hui ça date de plus d'un siècle. Mon deuxième grand choc dans une musique un peu plus contemporaine, c'était la découverte des premières œuvres de Christophe Penderecki, que j'ai fait dans les années 1970.
On peut dire que vous avez une approche plutôt intellectuelle de la musique que sensuelle, ou en tout cas dans l'émotion, où on ne peut pas faire la part des choses entre les deux.
Vous me troublez, parce que non, c'est incroyable. Bon, il y a une double approche, mais ça, je fonctionne comme ça. Je suis un être qui est pétri d'émotions, qui ne les montre pas toujours forcément, mais j'ai aussi évidemment ce côté intellectualisation de ces choses-là.
Vous êtes très tranché dans vos goûts.
J'organise mes émotions d'une certaine manière.
Vous avez des goûts très tranchés. Parfois, on ne va pas citer des noms. Oui,
j'ai un chapitre un petit peu où je m'élève contre certaines dérives que je considère être comme des dérives de la vraie musique, mais bon, oui.
Vous notez tout, parce que c'est extrêmement détaillé, les souvenirs de concerts, vous faites des fiches.
Disons que j'en ai fait quand j'étais plus jeune, je n'en fais plus depuis longtemps. Mais d'ailleurs, justement, ces vieux carnets que j'ai retrouvés, notamment ces souvenirs de concerts que j'ai tenus simplement les premières années où je suis venu en région parisienne et où je me suis gorgé de concerts tous azimuts, opéra, etc. Heureusement, je les avais notés, parce que sinon, un certain nombre, je les aurais oubliés.
Je voudrais qu'on se quitte, Jean-Pierre Luminet, avec Franz Liszt, on ne l'a pas encore cité. C'est votre passion, l'une des passions de votre vie, peut-être depuis le gramophone de votre excentrique tante germaine, c'était la deuxième rhapsodie. Depuis, vous donnez des conférences sur Liszt, la prochaine ce sera à Listomania à Châteauroux le 19 octobre, du piano aux étoiles, Ma vie avec Franz Liszt,
j'y consacre un chapitre entier. Alors ce n'est pas nécessairement mon compositeur préféré, donc il a un énorme catalogue. Ce que j'ai découvert progressivement avec Franz Liszt, même si effectivement dès le début, il m'a accompagné avec la Rhapsodie hongroise, puis après j'ai découvert progressivement toute son œuvre moins connue, ses dernières pièces pour piano totalement prophétiques, et puis par exemple son œuvre religieuse, ses grands oratorios Christus, qui sont des chefs-d'œuvre. Mais j'ai découvert surtout cet homme d'une générosité absolument extraordinaire, c'est peut-être l'un des êtres les plus généreux qui ait existé sur Terre, enfin un grand artiste qui est capable également de consacrer au moins la moitié de sa vie à faire connaître les œuvres de ses contemporains et des autres artistes autres que lui-même, pour faire découvrir d'autres génies que lui. C'est absolument remarquable. Donc Liszt m'a accompagné et j'aurai le plaisir de faire cette conférence dans cette belle manifestation de Listomania qui est organisée par Jean-Yves Clément depuis 20 ans.
À Châteauroux, le 19 octobre, on y reviendra sur France Musique. Liszt, né en 1811, l'année du passage d'une grande comète.
Vous l'année de naissance,
à faire des comparaisons, à faire des métaphores. Vous le citez aussi dans ce livre, il sera ce soir en concert sur France Musique et à l'auditorium de Radio France. Alexandre Kantorov, c'est votre dernier coup de cœur musical.
Oui. Ah, il fait partie effectivement dans le récit de mes grands concerts. Oui, les dernières en date, c'est
Découvert à Châteauroux d'ailleurs.
Découvert à Châteauroux, oui. Et que je vais avoir le plaisir de réécouter très bientôt.
Et ben, on le réécoute même maintenant, puisqu'on se quitte avec Liszt et avec Alexandre Kantorov, Jean-Pierre Luminet. Du piano aux étoiles, petit clin d'œil à Messiaen, n'est-ce pas? Une autobiographie musicale chez Le Passeur, ça paraît aujourd'hui.
Merci.
la fin du deuxième concerto de Franz Liszt avec Alexandre Kantorov au piano, le Tapiola Sinfonietta dirigé par Jean-Jacques Kantorov. Et je vous signale qu'Alexandre Kantorov est en concert ce soir à la Maison de la Radio avec l'Orchestre National de France. Il est en direct sur France Musique. Merci Jean-Pierre Luminel d'être
merci
venu.
Merci à vous de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir.
À très bientôt. Demain, notre invité sera le chef Alexis Kosenko. Au générique de Musique Matin, il y avait Valentin Bobinet, Antoine Giraud, Marion Guimet, Flora Sternadel, Pierre Matignon et Taïssia Froidure. La réponse à notre jeu il y a une heure, la voix que nous écoutions, la voix parlée, c'était celle du chanteur Bernard Lavillier qui fête ses 75 ans aujourd'hui. À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.